Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, 9h09. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes plus d'un million à nous écouter tous les samedis. Donc merci vraiment à vous et vous êtes également très nombreux à nous écouter en podcast. On est ravis de vous plaire le samedi et le dimanche matin. Alors au sommaire aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous raconter. Forcément ce week-end, voilà, c'est fini. Didier Deschamps va tirer sa révérence après le Mondial 2026. Est-il le plus grand sélectionneur français de l'histoire? Ce sera la une des GG. À 10h, la quête du 25e Grand Chelem repart pour Novak Djokovic en Australie. Après une saison blanche, Djoko, faut-il encore y croire? Ce sera le bras de fer. 11h, Ntamack, Ramos, Ntamack, Fabien Galthié va devoir faire un choix pour le tournoi des 6 nations au poste du numéro 10. Est-ce que c'est un choix sportif ou un choix politique? Les GG ne sont pas d'accord et on se posera la question. Les grandes gueules du sport, très en forme, je vous les présente ce matin. Une grande gueule qui, comme Didier Deschamps, son mandat est interminable. Christophe Tessieux, salut
comme
Christophe.
Didier Deschamps, je croyais que c'est, je savais pas que c'était l'homme de la semaine.
Ah si,
j'en avais un autre, moi.
Oui, t'avais quelqu'un d'autre?
Je sais pas, oui, quelqu'un qui nous a quittés.
Oui. Bah, Didier Deschamps va bientôt nous quitter aussi après 2026.
Ça va
Ça va et toi?
Ouais.
Bon, est-ce que tu as une grande annonce comme Didier Deschamps?
J'ai une grande annonce, c'est que je vais mourir sur scène comme Molière. Je vais rester là jusqu'à ce que paf.
Non.
Je
tombe.
Alors franchement, le plus tard possible quand même. Hein. Mais très bien.
Bon. Cardiaque en pleine émission.
Bon bah j'ai tenté. Hein. Je me suis servi d'Didier Deschamps pour me dire bon bah voilà, peut-être que Christophe c'est un appel du pied, mais non. Il va donc rester avec nous pour notre plus grand plaisir. Une grande gueule qui, comme Didier Deschamps, la langue française. Tu l'aimes ou tu la quittes, il a décidé de la quitter. Denis Charvet, salut Denis.
Tu veux faire une dictée, tu veux faire une composition, une, je sais pas, ce que tu veux.
Ouais. T'étais bon en dictée,
En dictée, j'étais très bon.
C'est vrai?
Ah, mais je fais aucune faute.
Et c'est à partir de quel moment où ça.
J'ai horreur que les gens fassent des fautes d'orthographe. Non, je te jure, c'est vrai.
Ça, je suis d'accord. En texto, on t'envoie un texto, il y a une faute d'orthographe, je trouve que c'est éliminatoire.
Non, j'aime pas. J'ai horreur de ça. Après, bon, je dis pas que je suis. Mais bon, je vais écrire quand même. Ouais. Papa est trempé.
Vous savez quoi? Je vais vous raconter une petite anecdote parce qu'elle remonte, c'était il y a plus de 15 ans et tout ça. Forcément, on est jeune, on s'envoie des textos avec des filles. Voilà.
Ah,
je vous raconte quelque chose, un coquin. Enfin bon, voilà, c'est normal. Et donc, je reçois un moment une question de la part d'une demoiselle qui m'écrit tu dors? Et dors, c'était avec un T. Et ben, je peux dire que c'est éliminatoire. Tu dors avec un T, c'est éliminatoire.
Tu l'as jamais revu?
Jamais. Et j'ai dormi pendant très longtemps.
Voilà.
Une grande gueule qui, comme Didier Deschamps, elle a perdu plus de finales qu'elle n'en a gagné. Ah, Marion Bartoli. Salut Marion.
Salut les amis.
Ça va, cher Marion?
Plus voué, perdu plus de finales que gagné, ça se discute. Mais bon, ça va. La vanne passe quand même.
C'est limite quand même, mais bon.
Cher Marion, je t'ai pas souhaité les vœux. Belle année à toi.
Mais belle année, mon JC également.
Bon, on peut te souhaiter quoi?
De très grands invités dans Bartoli Time, de magnifiques émissions dans les grandes gueules et beaucoup de rire dans le Super Moscato Show.
Voilà, on rappelle que Bartoli Time, c'est désormais le dimanche à 19h30. Voilà, retenez bien cet horaire. Oui. Avec Marion Bartoli, ce sera.
Parce qu'elle était à la plage
demain.
C'est pour ça.
Oui,
le temps de la plage.
On aménage les horaires, évidemment, selon vos plannings.
Je suis encore fouillé quand elle arrive à 19h, là, c'est mieux.
Et puis une grande gueule qui postule pour faire le biopic de Didier Deschamps. Non, oh non, pas ça.
Ah non, s'il vous plaît, pas
salut
ça.
Fred.
Salut. Oui, je postule, évidemment.
On rappelle que le dernier biopic de Fred Veil, c'était l'abbé Pierre, et que ça a très très bien marché, ça a détruit totalement sa légende.
Et surtout que je suis toujours dispo, hein. S'il y a besoin d'un biopic, c'est quelqu'un, je suis là.
On va pas faire du mal à toutes nos légendes, s'il te plaît, on va laisser Didier Deschamps tranquille. Ouais. Bah justement, on va débuter cette émission avec cette citation de Jacques Languirand, qui a dit un jour, les départs donnent souvent l'illusion d'une renaissance.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Didier Deschamps.
Salut, c'est Didier Deschamps.
C'est très bien, la victoire, c'est la chose la plus importante pour que la fête soit vraiment malade.
Il y a des exercices spécifiques, pardon, je vais y arriver.
C'est fini! Oui, c'est terminé! La France!
finale de la Coupe du Monde 2022. La France va défendre son titre mondial de 2018.
Si tu joues pas, tu passeras pas. Tu peux pas. À un moment, il faut que tu passes à créer des problèmes à l'adversaire.
La France est championne du monde. La France a sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde. En battant la Croatie, 4 buts à 2, 20 ans après le titre de 98.
J'ai arraché.
Ah, ça nous fait du bien de réécouter ces archives, évidemment, ces moments avec l'équipe de France. Mercredi, Didier Deschamps a pris tout le monde de court, reléguant le lancement de l'opération Piège Jaune au second rang. Le sélectionneur des Bleus, depuis 2012, a annoncé au JT TF1 la fin de son aventure avec l'équipe de France après le Mondial 2026. Un coup d'éclat pour un sélectionneur qui sera donc resté, si on compte 2026, 14 ans à la tête des Bleus, à son actif. Une Coupe du Monde en 2018, une finale de Coupe du Monde en 2022, une finale de l'Euro en 2016. Mais il reste évidemment un objectif, enfin deux objectifs, la Ligue des Nations, mais surtout le plus grand objectif, c'est remporter une troisième étoile en 2026 pour finir en apothéose. La musique qui fout les jetons est cette question. Est-il tout simplement le plus grand sélectionneur français de l'histoire? Oui ou non? Denis Charvet?
Oui.
Christophe Cessieux?
Non.
Fred Weiss?
Oui.
Marion Bartoli?
Oui.
3 oui, 1 non. Avant de débattre, évidemment, on vous attend au 32-16. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur des Bleus, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Alors déjà, Fabrice, raconte-nous les coulisses de cette annonce imprévue.
Eh bien, le fait que Didier Deschamps arrête après la Coupe du Monde 2026 n'a pas surpris grand monde, hein, c'était attendu. Cependant, le timing a pris tout le monde de court. Seuls quelques fidèles lieutenants de son staff savaient ce que Didier Deschamps allait officialiser ce mercredi.
Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là, parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. J'ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026, c'est très bien.
Avec cette annonce, le sélectionneur veut rester le maître des horloges. Il avait pris sa décision depuis longtemps et tenait à clarifier la situation pour que les questions concernant son avenir ne polluent pas les prochains rassemblements de l'équipe de France. Les joueurs, eux, l'ont appris comme tout le monde, c'est-à-dire dans la presse. Au sein du vestiaire des Bleus, on assure que ça ne changera rien et on continue à faire confiance évidemment à Didier Deschamps. On est même tourné vers les objectifs des Bleus, à l'image de ce que dit le sélectionneur de l'équipe de France.
C'est pas pour demain, dans une semaine ou dans trois semaines. Il y a encore de belles échéances devant nous et avec toujours la même détermination et la même exigence pour avoir les meilleurs résultats possibles. J'ai encore du temps puisqu'il y a des échéances qui nous attendent jusqu'à l'été 2025 avec évidemment la rentrée et ce quart de finale contre la Croatie et puis après la qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà le programme.
Voilà le programme. Et après cette Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane fait figure de grand favori pour prendre la place de Didier Deschamps. Et la décision revient évidemment au patron de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins pour toutes ces précisions. Je précise évidemment que demain on parlera de la succession et forcément de Zinedine Zidane dans les grandes gueules du sport. Et puis vous avez entendu les joueurs, ça ne changera rien cette annonce. Est-ce qu'on peut vraiment les croire? On se posera également la question dans ce débat dans quelques instants. Mais débutons avec aussi l'héritage de Didier Deschamps. Est-il le plus grand sélectionneur français de l'histoire? J'ai trois oui, j'ai un non. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Marion, pourquoi oui?
Alors, bon, bien évidemment, pour moi, c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire de la France dans le football, mais je vais même aller plus loin. C'est pour moi le plus grand sélectionneur de l'histoire, tout pays confondu, dans le foot depuis les 50 dernières années. Il n'y a que peut-être 2-3 sélectionneurs qui peuvent éventuellement s'asseoir à sa table. Je pense à Helmut Schön, le grand sélectionneur de l'immense Allemagne, Pozzo en Italie et Vicente del Bosque avec l'Espagne, ce qu'il a fait, ce qu'a été capable de faire Didier depuis 2012. Il faut quand même se rappeler, parce qu'on a la mémoire parfois un petit peu courte, mais lorsque Didier prend la sélection en 2012, il prend une sélection qui est complètement à la dérive. On vient de passer l'épisode de Nice-Na avec, on ne sait pas comment ça s'est passé. Laurent Blanc et son capitana, et son rôle de sélectionneur n'a vraiment pas été fabuleux. Donc il prend une équipe qui est à la dérive. Si aujourd'hui on pense à chaque compétition que les Bleus peuvent la gagner, c'est parce que Didier nous a permis de mettre la barre tellement haut qu'on se dit qu'effectivement à chaque Coupe du Monde ou à chaque Euro, la France doit la gagner. Mais pour moi, au-delà de ce qu'il a ramené en tant que palmarès, ça a été cité, tu l'as rappelé. Tu as oublié quand même une victoire en Ligue des Nations en 2021. Il a fait aussi une demi-euro en 2024 et un quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Un quart de finale, surtout après ce qui s'était passé en 2010, c'est jamais non plus anodin. C'est parce qu'il a ramené des trophées. Il a ramené surtout beaucoup d'ambition, beaucoup d'exigences, de la régularité dans les résultats. Finalement, il a ramené sa personnalité, ce qu'il était lui comme joueur sur le terrain. Il l'a ramené dans cette équipe de France. Et donc, pour moi, au-delà des simples résultats apportés, il a apporté bien autre chose à cette équipe. Et je pense que justement, ce qui va léguer très certainement à Zinedine Zidane, c'est aussi tout ça. Et c'est pour ça que Zinedine pourra ramener aussi cette équipe encore dans d'autres cieux. Je vais même pas comparer avec d'autres sélectionneurs français. On va les citer les, mais je suis sûr que mes copains vont le faire exactement le même parallèle. Mais pour moi, c'est même le plus grand sélectionneur de tous les temps dans le foot depuis les 50
dernières
années.
Ah oui, carrément, on y va avec Marion Bartoli. Juste une précision, je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu nous dis qu'il prend l'équipe de France à la dérive, c'est Laurent Blanc qui la prend à la dérive et c'est Laurent Blanc qui suit les plats.
Mais il a pas ramené plus haut. Laurent Blanc a fait exactement la même chose, je te l'ai cité. Oui, mais il a fait quoi Laurent Blanc en termes de résultats?
Non, mais il a essuyé les plâtres, c'est ce que veut te dire Gisèle.
Non, il apprend en 2012 complètement à la dérive, c'est très bien.
Celui qui a pris l'équipe de France en plus mauvais état encore, mais Marion, tu n'étais pas né, donc tu ne peux pas t'en souvenir, c'est un certain Michel Hidalgo. Ouais, Michel lorsqu'il prend l'équipe de France en 1975...
Michel Hidalgo, il gagne qu'un euro en 84, il fait 2000 la Coupe du Monde en 82, donc tu ne vas pas comparer le palmarès par rapport à Deschamps.
Tu me laisses parler ou tu as décidé de faire un monologue pendant 3 heures? Parce que autrement, ça va être trop long.
Vas-y Christophe.
Je te dis juste que donc Hidalgo, quand il prend l'équipe de France en 1975, c'est un nain du football. On n'a pas été qualifié en 74, on n'a pas été qualifié en 70. En 66, l'équipe de France est qualifiée, elle termine dernière de son groupe. 2 défaites, 1 match nul. On est un nain, on n'existe plus au niveau du foot. Et ce mec-là, eh bien, il a redonné de l'allant, il a façonné une équipe qui reste aujourd'hui, 50 ans plus tard, dans les mémoires du football. Quelles sont les équipes nationales qui ont marqué les esprits. La Hongrie 56, le Brésil 70, la Hollande 74 et la France 82. Largement devant l'équipe de France 98 et encore plus devant l'équipe de France 2018. C'est une équipe qui a laissé une trace.
Tu veux me dire que l'équipe de France à l'Euro 2000, elle a moins marqué que le. Que, non, mais arrête, mais Christophe, s'il te plaît, qu'on ait quelque chose à bon foot.
Alors je te laisse parler. Vas-y. Non, c'est bon, je te laisse.
Non, mais l'Euro 2000, comment tu peux me dire l'Euro 2000? Mais rappelle-toi l'équipe qu'il y avait sur le terrain. C'est un monstrueux.
En 1984, tu es né, donc tu t'en rappelles pas, mais l'équipe de 1984, la victoire contre l'Espagne au Parc des Princes, ce match incroyable, cette victoire dans les arrêts de jeu, rappelle-toi, va regarder sur YouTube et tu verras que c'était pas mal aussi.
Mais il y avait, alors, oui, tu as raison sur le fond, mais par rapport à Michel Hidalgo, c'est vrai que Michel Hidalgo était un très grand sélectionneur, il a pris une équipe.
Bon, il a donné une identité
oui,
de jeu.
Oui, mais il avait un génie avec lui aussi.
Eh ben, parce que.
Non, oui. Il avait plusieurs. Ils sont tous eu des génies avec eux.
Oui, justement. Mbappé et Griezmann sont les génies de Deschamps. Zidane était.
Zidane est le génie de Jacquet.
Non, mais c'est pour ça que je voulais relativiser. Après, on dit le plus grand sélectionneur de ça, il faut des grands joueurs aussi. C'est pour ça que je disais ça. C'est que Hidalgo a eu Platini, Jacquet a eu Zidane. Donc tout ça fait que tu es obligé d'avoir des grands joueurs. Si tu n'es pas un grand joueur, tu ne peux jamais être un grand sélectionneur.
C'est pas suffisant par contre. Et c'est bien d'avoir des grands joueurs.
C'est pas suffisant.
Et c'est pour ça que j'ai choisi Deschamps.
Et moi, par rapport à des choses que j'ai retenu que tu as dit à Marion, c'est qu'en fait, il est venu avec sa personnalité, que cette équipe de France lui ressemblait en fait. C'est-à-dire qu'avec autorité, c'était pas une équipe, comment dire, séduisante. Moi, parfois, je me suis ennuyé parce que il y avait la qualité d'aller plus haut, plus loin dans le jeu. Je parle dans le jeu, un peu frustré de la qualité, mais tu gagnes. Le problème, c'est un gagneur, un compétiteur, c'est un très grand compétiteur.
Il a tiré le maximum de ses équipes.
Le maximum, et c'est grâce à lui. Alors c'est vrai qu'il avait un très très grand joueur avec Mbappé, mais pas que. C'est-à-dire il y a Griezmann aussi, mais je veux dire, il sublime les joueurs. En fait, c'est sa grande qualité.
Et tu perds deux finales de grands championnats avec Deschamps.
Ouais, mais tu vas en finale.
C'est cette constance.
Il faut se rappeler Euro 2016, ensuite Mondial 2018, Mondial 2022. C'est-à-dire que c'est le premier sélectionneur à avoir enchaîné comme ça des pertes et aussi impressionnantes.
Et regarde les scores quand tu les perds, tu perds au tir au but ou tu perds 1-0 en prolongation.
Mais
ça
la dernière Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, Christophe, c'est quand même lui qui sort deux joueurs à la mi-temps, qui a le courage de. Parce que c'est pas évident ce qu'il fait. Hein.
De quoi?
Mais à la dernière Coupe du Monde.
À la dernière Coupe du Monde.
Te la faire gagner.
C'est un match fantastique. Il y a un quart d'heure. Il y a un quart d'heure magnifique.
Oui, mais c'est lui qui peut te faire gagner.
Il y a un quart d'heure de Kylian Mbappé. Si t'as pas le quart d'heure de Kylian Mbappé, la finale est complètement ratée.
Elle est quoi? Il faut. Mais c'est parce qu'il fait sortir Giroud. Il accepte de faire sortir des cas pour faire rentrer dans le joueur. Et arriver à ramener du 109 et arriver à faire bouger cette équipe qui était complètement pétrifiée par le stress.
Moi, encore une fois, je me répète, pour cette constance qui m'impressionne, et c'est ça qui est hyper intéressant dans des champs. Moi, j'entends tout à fait ce que dit Christophe, et je suis à deux doigts de te rejoindre. Bien sûr que c'était très fort avant. Mais Deschamps, il a réussi à nous amener loin, parce qu'effectivement, on partait de loin quand même quand il reprend l'équipe de France. Et on a eu une constance, on a eu cette capacité à être dur, sérieux, appliqué, et à s'imaginer tout le temps la France possible gagnant d'une compétition, en fait.
Mais ce que veut dire Christophe, et c'est vrai qu'on peut toujours comparer les sélectionneurs, et c'est ce qu'on fait dans cette émission, et c'est ce qui nourrit le débat. C'est que Michel Hidalgo a été évidemment le précurseur, parce que c'est lui qui a emmené
c'est lui qui a emmené
l'équipe de France, et ensuite Aimé Jacquet, même s'il n'a fait que deux campagnes, il a fait l'Euro 96 et puis la Coupe du Monde 98, c'est lui le premier à avoir gagné.
Le premier, c'est Michel Hidalgo.
Évidemment que si on parle de palmarès, Didier Deschamps est au-dessus des autres, mais les autres ont porté l'équipe de France. C'est la première fois qu'on faisait peur au monde.
À un moment donné, ils ont été remplacés, c'est aussi pour une raison.
Un sélectionneur, tu le juges aussi par son palmarès, parce que ça aussi, c'est important. Alors oui, évidemment, les amener à un haut niveau et à apparaître sur la carte du football mondial, oui, bien sûr, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Christophe sur Michel Hidalgo. Mais après, la constance, le fait d'apparaître dans le dernier carré à chaque fois, de gagner des choses, d'être en finale, et ben ça, c'est important.
Alors, Hidalgo, il a fait que 9 ans, il n'a pas fait 14 ans à la tête de l'équipe de France. Son palmarès sur les 9 ans, c'est extraordinaire. Rappelez-vous. Alors, moi, dans la mémoire, cette équipe de France, moi, alors je la regarde avec mes yeux d'adolescent qui était passionné par le foot. Mais franchement, elle a marqué les esprits. Mais Platoche, il a marqué les esprits avec Hidalgo. Rappelez-vous cette communion qu'il y avait entre l'équipe de France, entre les joueurs et Hidalgo. Hidalgo en pleurs, porté en triomphe sur les épaules de ses joueurs lorsque la France se qualifie pour la Coupe du Monde 78. On n'a plus été qualifié depuis 12 ans du monde.
Ça, c'est, mais le problème, c'est que c'est générationnel. C'est comme le débat avec LeBron et Michael Jordan. C'est exactement le même. C'est générationnel. Toi, tu l'as vu avec tes yeux de l'époque.
Mais
maintenant, nous, on est cette génération plus déchirée.
Mais après, mais c'est une génération où tu rêves moins, finalement.
Mais est-ce que c'est mieux? Je suis en train de dire que c'est juste les yeux,
j'arrive à rien. C'est plus mécanique, c'est-à-dire que tu gagnes, mais tu ne fais pas rêver comme tu le faisais avant, quoi. Moi, Deschamps, j'adore Didier, il a un palmarès fantastique, mais je suis désolé, ces équipes, elles m'ont jamais fait monter au plafond. Voilà.
Et de toute façon, dans ces débats, personne n'aura jamais raison, parce que c'est évidemment de la sensation. Marion, le mot de la fin, parce qu'après, je voudrais maintenant qu'on parle de l'année et demie qui va rester avec Didier Deschamps. Marion.
Non, mais ce qu'évoque Christophe, effectivement, c'est du feeling et c'est de la sensation. Et que ces moments-là, les marqués, je le dénigre pas du tout. Rappelle-toi quand même que sur l'Euro 84, quand t'as Platoche, effectivement, qui t'en plante neuf, ça rappelle aussi quand même beaucoup Maradona avec l'Argentine qui quasiment porte à lui tout seul une équipe. Alors, bien sûr qu'il y aura toujours des nostalgies de Maradona par rapport à Messi, que ça sera un débat qui est éternel. Mais faut quand même pas oublier que Didier Deschamps ramène la France en finale de la Coupe du Monde sur deux Coupes du Monde consécutives, avec surtout en 2022, tu pars quand même sans Benzema, sans Pogba, sans N'Golo Kanté, sans Lucas Hernandez. Tu perds.
C'est le
oui, mais d'accord,
de,
mais tu perds. Mais c'est un autre. Tu perds un nombre de joueurs.
Mais tu, Marion,
tu peux pas. Tu sais très bien que tu peux pas faire une équipe à un seul joueur. C'est un collectif. Mais tu dois créer un collectif, tu dois arriver à garder une équipe sous le coup qui performe malgré le nombre de blessures.
Le carré magique de 82, de 84, je suis désolé, il n'y avait pas que Platoche. T'avais aussi Giresse, t'avais aussi Tigana, t'avais aussi Luis Fernandez.
Oui, mais si t'as pas Platoche qui t'emporte neuf, tu ne prends pas l'Euro 84, c'est de la nostalgie. Regarde sur les résultats.
Tu vas pas en finale, c'est la même chose. C'est la même logique. Mais c'est générationnel et c'est pour ça qu'on aime ces débats enflammés dans les grandes gueules du sport. Parlons dans quelques instants de Didier Deschamps et donc de cette année et demie qui va lui rester à la tête des Bleus. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que cette annonce, vous y étiez préparé? Et puis surtout, le Mondial 2026, est-ce que c'est crucial pour son héritage, Didier Deschamps? Restez bien avec nous, on vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Salut, c'est Didier Deschamps.
Non, c'est Jean-Christophe Drouet. 9h32, toujours avec Marion Bartoli, bien Christophe Cessieux, Fred Weiss, Denis Charvet. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous. On s'en fout pas. Et notamment, cette nuit, Gaël Monfils qui a remporté son 13e titre ATP. Vous me direz si ça vous intéresse ou non, les GG. Mais restons un instant sur notre débat après cette grande annonce de Didier Deschamps qui va donc mettre fin à son aventure avec l'équipe de France après le Mondial 2026. Est-il le plus grand sélectionneur français de l'histoire? J'avais évidemment beaucoup de oui et beaucoup de oui, c'est Didier Deschamps. J'avais aussi du Michel Hidalgo qui a été le pionnier, voire du Aimé Jacquet. Jean-François nous appelle au 32-16. Salut Jean-François.
Bonjour.
Salut. Merci d'être avec nous Jean-François. De tu rien. Veux toi aussi participer à ce débat. Pour toi c'est qui?
Oui, oui, parce qu'il y a un truc que personne n'a dit, il faut absolument le dire. Bon, moi je suis, j'ai du mal à décider si c'est Aimé Jacquet ou d'autres qui sont les meilleurs. Mais je vais défendre un petit peu Michel Hidalgo et dire qu'on a oublié quelque chose de très important. C'est qu'on peut considérer que Michel Hidalgo est champion du monde en 1982. Ouais. Ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est quasiment sûr. Parce que si Schumacher, le gardien de but, est expulsé en demi-finale, la France est en finale et contre l'Italie, ils ont énormément de chances de gagner.
Jean-François, bah, oui, j'adore ce débat de dire non, on est champion du monde. Bah, on met l'étoile alors.
Tu n'as pas été.
Non, mais, Jean-François. Disons qu'on oublie que Michel Hidalgo a été un peu, on peut dire. Un peu truqué puisque l'arbitre ne sort pas Schumacher en demi-finale. Donc ça change tout. Mais beaucoup de spécialistes disent que la France, en 82, était la meilleure et aurait dû gagner la Coupe du Monde. Donc ça aurait fait une Coupe du Monde et un championnat d'Europe pour la France.
Oui, mais le débat
il est une pas... équipe qui tenait la route.
Le débat, c'est aussi le palmarès, c'est la longévité, c'est la personnalité. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu.
Oui, tout à fait.
Michel Hidalgo, il n'avait pas la même personnalité que Didier Deschamps. Ça a été un très grand sélectionneur, mais Didier Deschamps, il a une autorité qui va au-delà, quoi.
Oui, mais on oublie une chose, c'est que si Hidalgo ne vient pas, Giresse n'est jamais sélectionné.
Oui, ça c'est vrai.
Giresse, il n'en voulait pas à cause que, sous prétexte, c'est une bêtise, qu'il ne pouvait pas jouer avec Platini, alors qu'Hidalgo a prouvé le contraire.
Il a osé, tu as raison, il a osé de mettre les deux ensemble.
Mais encore une fois, c'est faire des choix forts, être un sélectionneur. Et donc, il a fait des choix forts.
Et qui a réussi et qui a marché.
Bon, voilà, en tout cas, c'était amusant de comparer les époques. Oui. Évidemment, personne ne sera jamais d'accord. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été avec nous au 32-16. Parlons maintenant de ce Mondial 2026, parce qu'il y a encore de la route à faire, du chemin, des objectifs pour Didier Deschamps. Fred, est-ce que c'est crucial, ce Mondial 2026, pour l'héritage de Didier Deschamps? Est-ce qu'il n'a pas le droit, là aussi, de se planter pour laisser son nom à jamais dans la légende?
Ouais, je pense, parce que on est dans la culture de l'instant. Alors oui, bien sûr, il a fait des choses extraordinaires, et encore une fois, hein, je suis le premier à dire que c'est le plus grand sélectionneur, mais malheureusement, quand ça se passe mal, quand ça finit en eau de boudin, on se rappelle souvent de ça, et on va se dire, finalement, c'était pas terrible, il aurait dû arrêter avant, on va lui reprocher
les années trop,
et on va commencer à parler. Et ça serait vraiment dommage, encore une fois, pour cet héritage qui est monstrueux.
Et Djokovic, il est en train de faire l'année de trop.
C'est pour Marion, ça. Tu vois, ça me fait penser à Vincent Collet, qui est un peu le parallèle au niveau du basket. Et Vincent Collet, il venait de faire en 2023 une Coupe du Monde complètement ratée. Ouais. S'il avait enchaîné avec les JO ratés, ce qui est à deux doigts de se passer, tout le monde aurait dit c'était pas mal, mais on est content de changer, on a envie de changer. Moi, j'ai envie que quand Didier Deschamps arrête, on se dise, OK, on est content d'avoir peut-être Zidane. Mais on était super content d'avoir Didier Deschamps parce que ce qu'il nous a apporté, c'était génial.
Ouais, donc vous êtes en train de me dire qu'il s'est libéré d'un poids, mais il a la pression, Didier Deschamps, Marion.
Et une revanche personnelle. En fait, Didier a été marqué, restera marqué à vie par la non-qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis pendant sa carrière professionnelle. Donc là, il y a une revanche personnelle avec une espèce de clin d'œil du destin qui le ramène aux États-Unis avec l'équipe de France pour sa dernière compétition. Et bien évidemment, en immense compétiteur qu'il est, il veut terminer sur une bonne note. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a décidé d'annoncer aussitôt le fait qu'il n'allait pas prolonger. Déjà pour éviter éventuellement les rumeurs ou qu'on commence à dire, il va pas y continuer, il va pas y aller. Bon, là, au moins, c'est lui qui le dit. Mais ensuite, surtout, c'est pour se dire, finalement, il est là, mon dernier défi. Donc, plutôt d'arriver un petit peu usé, en ne sachant plus si c'est vraiment, ça va être la dernière ou pas la dernière, s'il va y avoir quelque chose après, il n'y a plus rien après. Et je pense qu'il va justement jeter toutes ses dernières forces dans cette dernière bataille avec ce clin d'œil du destin immense qui le ramène aux États-Unis.
En espérant qu'il ramène tous les jours avec lui, parce que ça peut soit les galvaniser, soit se perdre un petit peu. Donc, on espère que ça
les galvanise.
Mais normalement, oui, mais on va voir.
Ok, Denis.
Non, c'est là où tu vois que c'est un grand sélectionneur. C'est-à-dire que lui, sa communication est parfaite. En fait, il a dit, contrairement à ce qu'il dit, qu'il avance, qu'il n'a pas fait exprès au journal d'annoncer qu'il arrêtait. Tout est calculé, mais je trouve que c'est calculé dans le bon sens. C'est-à-dire que lui, ça va le libérer. Pour moi, ça va être un poids en moins sur ses épaules. Et que lui, il va pouvoir maintenant travailler sereinement pendant un an et demi, à faire son équipe, à la façonner, à ne plus avoir de choix, forcé par la presse, par les gens autour de lui. Là aujourd'hui, je pense qu'il va dans une mission qui est la sienne aujourd'hui. Il l'a choisi et c'est là où il est très fort. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il va très bien finir. Il y a une très belle génération de joueurs. Il faut qu'il rappelle Griezmann, mais il va le faire et je pense qu'il sera là au mondial. Je vois pas comment il sera pas au mondial. Mais voilà, moi, j'ai aucun doute sur la fin de Didier Deschamps.
Ok, tout de même, pour dire que oui, tout était calculé pour ce JT de 13h, ce qui peut un peu choquer, c'est que son président, Philippe Diallo, n'ait jamais été au courant. Pourtant, on imagine que ça se passe de concert, normalement. Oui, mais je vais arrêter, est-ce que t'es sûr et tout
non,
ça
pas forcément, peut-être que c'est juste une décision personnelle, il a envie d'arrêter, il arrête.
Oui, mais il a raison, il peut
bien pour expliquer que c'est lui le patron. Quoi.
Déjà, il montre que c'est le patron, mais en même temps, il finit son contrat. Donc en même temps, c'est juste un secret de polichinelle, en fait, d'avouer qu'après ce contrat, il continue.
Christophe, est-ce que c'est crucial à ce mondial 2026 pour lui?
Moi, je suis un tout petit peu moins optimiste que vous parce que je me dis que maintenant que ces joueurs savent qu'il va prendre sa retraite, qu'il va plus être le patron, est-ce qu'il aura la même mainmise sur son groupe, la même autorité? Je sais pas. C'est pas une sélection. C'est pas un club, c'est une sélection. Donc c'est différent. Les mecs peuvent pas se rater et abandonner leur sélectionneur parce qu'en équipe de France.
Joueurs ont été sélectionnés leur première sélection.
Ils doivent tous.
Ils doivent leur première sélection à Didier Deschamps. Ça, c'est fondamental. Je vois qu'Éric Dimeco, il disait toujours, moi, la première, c'est
Griezmann aussi, ça lui a pas, non, mais ça l'a pas empêché mais de non, dire, mais, OK,
même
Didier,
moi,
je m'en vais.
Quand t'as sélection la première fois, tu sais qui c'est.
Donc il les tient toujours. C'est ça que tu veux nous dire.
Non, mais je pense qu'ils vont l'honorer. Je pense que c'est pas possible qu'ils le lâchent ou de quelque façon que ce soit.
Je suis d'accord.
Ils seront derrière lui. Ces joueurs sont sous pression parce qu'ils savent que Didier Deschamps, il a plus rien à perdre. C'est son dernier.
Non, mais même.
Donc il va pouvoir faire ce qu'il veut, prendre les décisions qu'il veut. Et si tu joues pas bien, t'es pas sur le terrain.
Les joueurs, c'est des compétiteurs. C'est une compétition extraordinaire. Tu crois pas que les joueurs ont envie de
gagner? Alors Benzema va-t-il faire son retour avec Didier Deschamps, avec Zinedine Zidane?
On parlera de Zinedine Zidane dès demain. Restez bien avec nous, forcément. Place à la succession. Je ne pense pas que ce soit dans les tuyaux. Tout de même, il sera un petit peu vieux, même si on adore évidemment Karim Benzema. On a encore un auditeur qui vient tout juste d'arriver. Il va arriver dans quelques instants. C'est Jérémy qui est avec nous. Bonjour Jérémy.
Bonjour les grandes gueules.
Salut Jérémy.
Vas-y, tu peux également participer à notre débat.
Moi, je suis pas d'accord avec justement avec Denis et Marion et plutôt d'accord avec Christophe et Fred sur le fait qu'à mon avis, pour lui, la pression, il va l'avoir et dès le mois de mars, je pense. Contre la Croatie et que si au cas où il se qualifie pas, je pense que ça va être de nouveau après il y a les qualifications. Après, s'il se qualifie pas, ça veut dire qu'au mois de juin on joue les qualifications pour l'Euro et
pour la Coupe du Monde, et
on sait qu'à cette période là les joueurs, alors soit ils vont être concentrés sur leurs vacances, soit ils vont être concentrés sur la nouvelle magnifique compétition de la FIFA, la Coupe du Monde des clubs. Donc ils vont être, je sais pas combien de pourcents concentrés.
Mais quand est-ce qu'on t'a dit qu'il n'y aurait pas la pression?
La pression, il est tout le temps. Dans le sens où vous dites qu'il n'y aura pas de soucis, là il va être libéré, Denis disait, moi je suis pas sûr qu'il soit vraiment libéré. Et si ces joueurs se qualifient contre la Croatie, ça lancera le truc, on ne dira pas que ces joueurs l'ont lâché, on ne dira pas que ces joueurs pensent déjà à l'après. Et voilà. Mais pour lui, je pense que s'il veut vraiment être libéré, il faut qu'il arrive à gagner et à se qualifier contre la Croatie.
Mais c'est vrai que final de la Ligue des Nations, c'est match sur aller-retour.
C'est un entraîneur qui a tout gagné. T'imagines l'objectif qu'il a. Le dernier objectif, c'est magnifique pour lui. C'est pour ça que je dis qu'il est libéré, parce qu'il a
une dernière
sortie qui est extraordinaire. Donc je vois pas pourquoi il a raté.
Il doit bien finir, par contre, Denis.
Mais oui, mais je vois.
Il doit bien finir.
Non, mais quand tu connais le compétiteur qu'il est, je vois pas comment ils peuvent mal finir.
Ok, les copains, on va arrêter sur ce débat passionnant avec vous. Merci, Jérémy, d'avoir composé le 32-16. Je le rappelle, on parlera demain de Zinedine Zidane, qui est évidemment l'évidence pour tout le monde. Mais est-ce qu'il peut dire non, Zinedine Zidane? Est-ce que ce serait pas un cadeau empoisonné? Ce sera notre débat demain dans les grandes gueules du sport. Et puis, une précision à vous faire. C'est très important. Ça va se passer mardi prochain dans Rotten sans flamme. À partir de 18h, Thierry Henry, qui lui aussi postule, on l'imagine en tout cas, pour être sélectionneur des Bleus. Thierry Henry sera l'invité exceptionnel de Jérôme Rotten pour Antenne Sauf Flamme, avec donc Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour, accompagné à ses côtés de Patrice Evra. Donc mardi à 18h, évidemment, il faudra absolument écouter RMC. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Gaël Monfils qui remporte son 13e titre sur le circuit, c'était cette nuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h45 de retour dans les Grandes Gueules du Sport avec ce matin Fred Weiss, Marion Bartoli, Denis Charvet, Christophe Cessu à partir de 10h. J-1 avant l'Open d'Australie. Novak Djokovic, faut-il encore y croire? Ce sera notre débat, ce sera le bras de fer des GG. Il y aura un 2 contre 2. Comme d'habitude, les GG ne sont pas d'accord. À 10h45, les GG contre-attaque. Vous connaissez le principe, mes GG. Vous nous proposez un débat soumis au vote sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et forcément, il y aura un seul gagnant, un seul élu. Votre proposition de débat, c'est quoi, Denis Charvet?
Ben, c'est l'affiche entre les Sharks de Durban, l'équipe sud-africaine, face à Toulouse, Stade Toulousain cet après-midi. Pour ceux qui décrient cette Coupe d'Europe, qui n'aiment pas, qui ne voient pas de visibilité, qui en a marre de voir les équipes sud-africaines dans cette Coupe d'Europe,
eh ben, je vous dis,
regardez ce match, c'est un vrai choc. Ça va être un match extraordinaire avec une revanche dans l'air, la revanche du quart de finale de la Coupe du Monde. C'est cet après-midi à 4h30, je crois.
16h15,
ce sera à suivre sur RMC. Il veut défendre la Champions Cup. Parfait, c'est la proposition de débat. Christophe Cessieux.
Moi, je vais vous parler d'un garçon qui est maudit. Ça a été le plus grand champion, le plus grand pilote sans doute de l'histoire du sport automobile français. Mmh. Il s'appelle Sébastien Loeb, il a remporté 9 titres de champion du monde, il a remporté 88 rallyes WRC, et dans le Dakar, il n'y arrive pas. Ça fait 9 fois qu'il s'aligne au départ du Dakar, et 9 fois qu'il n'arrive pas à remporter la course. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment expliquer cette schumoun qui poursuit Sébastien Loeb? Je vous propose de faire une analyse très précise de cette situation tout à l'heure.
Est-il maudit? Voilà, croyez-vous à la malédiction? Ce sera le débat proposé par Christophe Cessieux. Marion Bartoli.
Alors moi, comme Gaël Monfils vient de brillamment remporter le tournoi d'Auckland, et que en 2008, un des meilleurs amis de Gaël, Joe Wilfried Tsonga, atteignait la finale de l'Open d'Australie contre Novak Djokovic et en battant Rafael Nadal, comme Arnaud Clément aussi qui a fait la finale Open d'Australie, malheureusement perdu contre André Agassi. Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un Français cette année ou dans les années qui arrivent qui peut être en finale d'un tournoi du Grand Chelem en Australie ou ailleurs?
Ok.
On va citer des noms.
C'est la proposition de Marion Bartoli. Fred Weiss, ta proposition.
Alors moi, j'ai vu que le fils de Wayne Rooney, qui s'appelle Kay Rooney, avait été insulté et moqué parce que c'était justement le fils de Wayne Rooney. Et donc, je me posais la question, est-ce que les enfants de superstars peuvent réussir dans le sport de leurs parents?
Ok. C'est un débat philosophique. Vous aurez deux heures et une copie double. C'est la proposition de Fred Weiss.
Exemple et contre-exemple.
Il y a plein d'exemples
et de contre-exemples.
Exactement.
Ok, les copains. Allez, on s'en fout pas tout de suite.
Le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Et je rappelle évidemment que vous pouvez aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. Ce sera dans une heure. Alors, plusieurs informations à vous donner. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Forcément, la première, la plus chaude, la plus fraîche. C'est Gaël Monfils qui remporte son 13e titre ATP cette nuit. On s'en fout pas. Denis Charvet.
On s'en fout pas, mais je vais laisser la parole à Marion.
Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Ok, ça intéresse tout le monde. C'est à la veille de l'Open d'Australie, du début de l'Open d'Australie. C'est donc Gaël Monfils qui a réussi un très joli coup en triomphant au tournoi d'Auckland, devenant à 38 ans et 4 mois le joueur le plus âgé à remporter un tournoi ATP. Depuis 1977, il s'est facilement débarrassé de Zizou Berg, le Belge, 6-3, 6-4. Je vous propose justement d'écouter Gaël Monfils après ce succès.
Alors aujourd'hui, je voulais surtout être très solide, mais c'était un peu différent parce qu'il y a des positions vraiment venteuses, donc ça a été différent. J'ai commencé, j'ai bien servi, mais à la fin c'était beaucoup plus dur au service. Forcément, je suis super content, c'est un titre de plus, une opportunité de plus de mettre un titre dans mon palmarès. Donc je suis très content.
Et il entre dans le top 50 mondial. Avant d'écouter Marion, Christophe, vous voulez donner une précision?
Ouais, parce que ce garçon m'étonne. On a l'impression que la monf est éternelle. Régulièrement, on le croit fini, on le croit aux portes de la retraite. Et tel le phénix, il ressort de sa boîte. Comme ça, il gagne. À la différence de ses copains dont Marion parlait tout à l'heure, Tsonga, Gasquet, qui petit à petit, on les a sentis baisser de pied, être moins présents dans les grands rendez-vous. Et lui, Alors de temps en temps, il passe complètement à côté. Puis paf, comme s'il avait 20 ans, il se retrouve en finale, il gagne un tournoi. C'est ça qui m'étonne.
Il a des fulgurances avec
Gaël. Il a des fulgurances et il reste très performant physiquement. Il a toujours ce jeu incroyable. Et on peut se dire que ça peut continuer comme ça éternellement avec lui. Hein.
On
a l'impression que les années n'ont pas d'atteinte sur lui.
38.
Au premier tour de l'Open d'Australie, Gaël Monfils va affronter un autre Français, Mpetshi Perricard. Et je rappelle juste que les cinq derniers vainqueurs d'Auckland ont tous été sortis au premier tour du Grand Chelem la semaine suivante. C'est statistique. Oui, voilà. Et le match se sera mardi. Marion Bartoli.
Non mais je te jure. Incroyable de dire un truc pareil.
Qu'est-ce qui est incroyable, c'est incroyable. La vérité. Attention
non,
à la malédiction.
Incroyable. Non, mais alors moi surtout, ce que j'adore dans ce tournoi, c'est que Gaël était mené 6-1-5-2 contre Pedro Martinez, qu'on s'est dit voilà, c'est le premier tournoi de l'année, il n'est pas dans le rythme. À Auckland, j'ai joué ce tournoi de nombreuses reprises, il y a énormément de vent, donc il faut être vraiment tout de suite dans le bon timing, sinon c'est très compliqué de jouer et d'avoir des bonnes sensations. Et il arrive à remonter, à s'en sortir. On se dit allez, c'est bon, il a passé ce tour, là ça va être peut-être un peu plus compliqué pour la récupération au suivant. Et puis finalement, il arrive à remporter le tournoi, donc bien évidemment pour moi, c'est une immense satisfaction et ça m'apporte le sourire. C'est quelqu'un que je connais depuis qu'il a l'âge de 15 ans, on a grandi ensemble, on a fait toutes les compétitions juniors ensemble et puis surtout, aujourd'hui, il joue pour sa fille. Au début, quand sa fille est née, il n'arrivait pas à gagner un match et ça le minait, il était détruit par ça. Et là, d'arriver à remporter un tournoi entier, de pouvoir montrer ce trophée à sa fille, je pense que c'est un bonheur, un plaisir absolument immense. Et attention pour Giovanni, Mpetshi Perricard, qui est très proche, bien sûr, de Gaël, et un petit peu comme son grand frère, parce que Giovanni, bien sûr, son arme fatale, c'est son service, mais Gaël, avec ses qualités physiques et athlétiques, est capable de remettre énormément de balles dans le cours, surtout au retour. Donc ça peut être un match très dangereux pour Giovanni. Donc ce premier tour va être extrêmement alléchant, mais quoi qu'il arrive, une performance absolument extraordinaire de la part de Gaël Monfils cette semaine à Auckland.
Je suis dégoûté moi qu'il y ait cette affiche au premier tour de l'Open d'Australie entre Gaël Monfils et Giovanni.
Mais c'est le tirage au sort.
C'est quand même un des plus gros gâchis du tennis français. Je trouve que celui qui aurait dû gagner un Grand Chelem, voire deux, voire trois, c'est quand même Gaël Monfils. Moi j'adore le voir jouer, c'est extrêmement spectaculaire, on le sait, mais tu es tellement frustré. Oui, non, mais je sais que c'est lié aux blessures, c'est lié. Bon, c'est physiologique peut-être chez lui.
Après, t'avais Roger, Rafa et Novak aussi. Hein,
non, mais tu payes ta place pour un joueur comme Gaël Monfils.
Ah, bah oui, tu payes
sans aucun problème.
C'est extraordinaire. Il te fait rêver. Ouais.
Bravo en tout cas à Gaël Monfils pour ce nouveau succès sur le circuit ATP. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le triplé français en biathlon hier. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Fred Weiss.
Je m'en fous.
Ok, il passe. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas, mais je vais écouter les autres.
Ok, oui, tu n'en fous pas, quoi.
Tu vas pas m'écouter,
de façon polie, je m'en fous.
Ok, alors Christophe, c'est pour toi cette information, c'est quand même magnifique. Hein. Les Français étaient beaucoup trop forts hier. Quentin Fillon-Maillet, premier. Fabien Claude, deuxième. Émilien Jacquelin, troisième. Un magnifique triplé français, donc lors du sprint homme d'Oberhof en biathlon. Quentin Fillon-Maillet, il a 32 ans. On le connaît évidemment. Parce qu'il a eu de nombreux succès.
C'est un peu l'amour du biathlon, c'est pas tout à fait le même.
Mais c'est sa première victoire individuelle en Coupe du Monde depuis mars 2022. Justement, on va l'écouter après ce magnifique triplé. Quentin Fillon-Maillet.
C'est beaucoup d'émotions. Ça a été le chemin de croix pour revenir justement à une victoire. Ça a été compliqué. Hein. Des fois, c'est la forme, des fois, c'est le tir. J'ai un sport qui est si simple, mais si compliqué à la fois. Ça signifie vraiment beaucoup pour moi de revenir sur la victoire parce que c'est juste ce que j'aime par-dessus tout. Mais ça faisait un moment que j'avais pas de sensations si fortes hein, sur les courses individuelles. Et d'autant plus que partager avec trois autres Français et encore plus aussi parce qu'il y a une poursuite demain. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien.
Et la poursuite, ce sera évidemment à suivre sur RMC. On espère le même destin pour les Français.
Et la dernière fois qu'il y avait eu un triplé français en biathlon, c'était en 2020. C'était la dernière course de Martin Fourcade, qui avait un palmarès incroyable. Il y avait ce jour-là Fourcade, Fillon-Maillet et Jacquelin, deux des trois qui étaient sur le podium hier. Donc comme quoi le biathlon français arrive quand même à continuer à exister malgré les retraits des uns et des autres et arrive à renaître de ses cendres comme c'est le cas de Fillon-Maillet qui, tu le disais, n'avait plus remporté la moindre victoire depuis mars 2022. On pensait que son triomphe aux Jeux Olympiques elle lui avait coupé les jambes et coupé sa faculté à bien tirer. Il avait deux titres olympiques quand même à Pékin en 2021. Et ben le voilà de retour. J'espère que c'est pas une simple victoire isolée qui va pouvoir s'affirmer à nouveau dans cette équipe de France de biathlon.
Exactement, bravo en tout cas à nos Français. Tu parlais évidemment des hommes, hein, pour le triplé, parce qu'il n'y a pas longtemps les femmes ont réussi à faire ce triplé, garçons, mais ouais. Tu parlais des garçons. On va suivre tout ça tout ce week-end, en tout cas c'est bien parti à Oberhof pour nos Français. Demain dans le zapping, pardonne-moi mon Fred, on parlera, un petit mot justement sur Wembanyama. Je vais pas vous faire on s'en fout pas parce que là on est assez pris par le temps, mais vu que tu seras pas avec nous demain, je voudrais avoir ton avis sur Wembanyama qui est en route vers le All-Star Game. Juste l'information, c'est dans un peu plus d'un mois, et la NBA vient de publier le deuxième volet de vote des fans, et pour sa conférence, la conférence Ouest, le Français réussit l'exploit d'être le quatrième intérieur le plus plébiscité derrière Jokic, Durant et LeBron James. Pour être titulaire, il faut terminer dans les trois premiers, donc ça va être dur, mais il est quasiment dans les remplaçants, ça on peut déjà le dire.
Bien sûr, dans les remplaçants, oui, il passe devant Anthony Davis quand même, qui est un joueur fantastique. Après, malheureusement pour lui, devant lui c'est LeBron James, et LeBron James tu passes pas devant comme ça. Donc très très belle saison, très belle avancée pour le All-Star Game, mais ça semble impossible qu'il soit titulaire.
Il faut quand même juste mesurer la portée de l'exploit quand même de ce qu'arrive à faire Wembanyama, parce qu'il est pour l'instant le 8e joueur le plus plébiscité de toute la ligue. Il a fait un an et demi en NBA.
C'est un alien, c'est incroyable ce qu'il propose dans le jeu, mais c'est incroyable aussi la hype qu'il engendre aux États-Unis. Donc il arrive bientôt, c'est les NBA Paris Games qui arrivent bientôt, donc il faudra.
T'as une place pour moi.
Il a des temps de passage énormes après ses 100 premiers matchs en NBA. Parce qu'il y a une espèce de marque comme ça après 100 premiers matchs de NBA. Il a plus de points que LeBron, il a plus de shoot à 3 points que Curry, il a plus de rebonds qu'Anthony Davis. Alors oui, le basket a évolué. Aujourd'hui, c'est un basket plus offensif par rapport au début de LeBron en 2003. Mais quand même, il a des temps de passage absolument extraordinaires. Mais tu plantes pas 42 points en garde le soir de Noël sans être extraordinaire, de toute façon.
Mario, une place pour moi.
Non, arrête de comme
oui,
ça, de manger
peux avoir
à tous les ateliers.
Toutes les places.
En janvier, dans pas longtemps, la NBA à Paris, on en reparlera dans cette émission. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Au sujet de Novak Djokovic, 25 grands chelems, est-ce qu'il faut encore y croire? Oui ou non, les GG ne sont pas d'accord, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.